réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller en ce lundi 30 mai 2016 avec Un autre jour est possible, votre réveil culturel. À quoi sert la culture au juste ? Poser cette question sur les ondes de France Culture peut paraître déplacé et pourtant... À moins d'un an des élections présidentielles, plus que jamais, le débat mérite d'être ouvert. Cette question sera au centre de nos programmes cette semaine, et même au-delà, puisque le week-end prochain, les 4 et 5 juin, France Culture et le Centre Pompidou créent un événement unique au cœur de Paris, un festival manifeste. Imagine où un week-end de la création et des idées, avec des grands débats, des dialogues inédits, des rencontres, des lectures et des performances artistiques. Il y aura même des concerts. Pourquoi la culture ? Le débat est ouvert et toute cette semaine, je serai avec Jérôme Clément autour d'un essai écrit à la première personne que vient d'éditer Grasset, l'urgence culturelle. En deuxième partie, je serai avec Teresa Crimisi, éditrice et écrivaine. Elle dirige en ce moment au CNC la commission de l'avance sur recette et puis elle-même, qui est tout à la fois franco-italienne de naissance égyptienne, viendra aborder à ce micro le thème pas du tout anodin de nos jours de l'identité culturelle. Qu'est-ce qu'une identité culturelle ? Un autre jour est possible, c'est parti, tout de suite, tête chercheuse, Jérôme Clément. La culture, une affaire cruciale avec Jérôme Clément. Bonjour.
Bonjour.
Premier épisode. Une politique culturelle, ça sert à quoi, Jérôme Clément ?
Ça sert à rendre les gens heureux. Après tout, tous les programmes politiques sont destinés à ça. La politique, c'est l'idée d'avoir un monde meilleur et d'organiser la société pour que les citoyens du pays soient plus heureux, correspondent à une société qui corresponde à leur aspiration.
Mais si je vous disais, si je vous portais la contradiction pour que le débat s'installe enfin, que la culture n'a pas besoin ni de ministère ni de programme, que les artistes doivent être libres et échapper à toute tutelle administrative, après tout les États-Unis qui ont gagné la bataille culturelle au niveau mondial n'ont jamais eu de ministère de la culture et encore moins de programme culturel.
C'est vrai. La France a une tradition différente dans ce domaine. Pour des raisons historiques, au fond, c'est avec François Ier que le soutien donné aux artistes apparaît comme une prérogative royale. En 1539, l'édit de Villers-Cotterêts impose la langue française dans tout le territoire. Et puis, au XVIIe siècle, on voit Louis XIV appeler à sa cour des musiciens, Lully, Rameau, des écrivains, Corneille, Molière, etc., des architectes qui ont fait Mansart, bien sûr, les jardins, le nôtre. Donc d'un seul coup, les beaux-arts sont un attribut du prestige royal. Alors, ça a continué comme ça pendant un certain temps. C'était pas forcément une politique culturelle. C'était une politique de soutien aux beaux-arts. C'est-à-dire que les artistes devaient servir à glorifier le roi et le royaume. Et l'empereur Napoléon a continué un petit peu de la même façon. Mais de là est née l'idée que la culture était une affaire d'État et d'État central. Pour ce qui concerne la France, ce qui n'est pas la même tradition en Allemagne ou dans d'autres pays, ce qui n'est pas du tout la même histoire aux États-Unis, comme vous l'avez dit. Aux États-Unis, ça n'existe pas, l'État. Et d'une certaine façon, dans beaucoup de pays, on se méfie du rapport entre l'État et la culture. En France, il a eu un rôle positif, puisqu'il a permis d'avoir une politique de soutien à la création, de protection du patrimoine, et ça c'est tout 19e avec Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc, etc., que tout ça s'est installé. Mais la politique culturelle, elle est vraiment née sous le Front populaire, parce que c'est à ce moment-là que se produit la rencontre entre les beaux-arts, le soutien aux beaux-arts, tel qu'il était conçu, il y avait même un secrétariat d'État aux beaux-arts qui était rattaché au ministère de l'Éducation nationale, et les mouvements populaires. Et au fond, c'est l'idée communiste et socialiste dans lequel le temps libre doit être utilisé pour se divertir, mais aussi pour se cultiver. Et on voit apparaître la notion de culture, qui est un terme assez récent. On ne parlait pas de politique culturelle sous Louis XIV, ni même sous la Troisième République. On parlait des beaux-arts. Et là, d'un seul coup, les mouvements de jeunesse, peuple et culture, les maisons de jeunesse et de la culture, qui vont en être peu après, on s'occupe de la diffusion de la culture dans la société et auprès du peuple, et auprès des travailleurs. J'emploie ces mots à dessein, parce que peuple et culture, c'était ça. Et tout le mouvement qui est né à ce moment-là, et puis ensuite qui a été repris après la guerre, par Jeanne Laurent, par exemple, par le Parti communiste, par Jean Villard, avec le Théâtre national populaire, vous voyez, c'est des mots qui ont du sens, visait à ce que la culture soit l'affaire de tous. Et l'idée de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire d'une politique culturelle pour le plus grand nombre, elle est née là, quoi. Elle est née dans cette période. Et elle a été reprise, en fait, par le général de Gaulle, pour d'autres raisons, en 1959, lorsqu'il a créé le ministère des Affaires culturelles. Et d'un seul coup, les affaires de la culture sont devenues une affaire d'État. Ce qu'elles étaient déjà m'ont été sacrées pour être au gouvernement. Et pas n'importe où. Numéro 2, ministre d'État, André Malraux, pendant 11 ans, a assis cette réalité politique-là. On voit que c'est un long mouvement qui a abouti à ça et qui a fait qu'en France, effectivement, l'État, le pouvoir central, est le protecteur de la culture et joue un rôle dans l'organisation de la vie culturelle au bénéfice des citoyens. Alors vous dites, on n'a pas besoin d'État, c'est ce que pensent les anglo-saxons. Effectivement, ils ont une tradition différente, donc il ne faut pas en faire une panacée. Mais voilà, comme chez nous et dans beaucoup de pays, l'État doit jouer un rôle pour des affaires aussi importantes que le patrimoine, la création, l'éducation artistique, la diffusion de la culture.
Et aujourd'hui aussi, je veux dire, ce que vous dites, Jérôme Clément, est-ce que c'est pas ça n'a pas été dépassé par le temps, par les époques, c'est-à-dire une fois qu'on a démocratisé la culture, les arts, une fois qu'on a fait toute une politique autour de la préservation du patrimoine, est-ce qu'aujourd'hui, une politique culturelle est toujours d'actualité ?
Bah, c'est une question qui se pose. Elle se pose à tous les gouvernements qui se posent toujours la question de savoir si c'est utile et nécessaire. D'un certain point de vue, on peut se poser la question de savoir si la politique de démocratisation a réussi. Bah, dans ce cas-là, il faut se poser la question de savoir si ça n'aurait pas été pire sans. Alors, il y a eu des grands débats. Hein. Marc Fumaroli, académicien, écrivain, a écrit un livre qui s'appelle « L'État culturel » dans lequel il fustige en France le rôle de l'État en disant que c'est l'affaire des personnes privées, que personne n'a à se mêler du choix d'un livre, d'un film, etc. et que cette politique est tout à fait insensée. Et elle était critiquée par d'autres, d'une certaine façon, Alain Finkielkraut aussi, dans « La défaite de la pensée », Michel Schneider aussi. Donc il y a de nos jours un mouvement, il y en a toujours eu, mais enfin il existe quoi. C'est un mouvement contestataire en disant on ne veut pas que l'État se mêle de la culture, c'est pas son affaire. La tradition française, elle n'est pas celle-là, et moi je pense que c'est une affaire d'intérêt général, que la culture n'est pas donnée à tout le monde. Il y a beaucoup de milieux dans lesquels on n'a pas accès ni à la peinture, ni au musée, ni à la musique, et que si la collectivité ne fait pas un effort pour leur donner accès, ben il y a plein de gens qui passeront à côté, et qui passeront à côté d'un épanouissement personnel, d'une richesse collective qui est essentielle pour la vie de chacun. Donc je crois que c'est une mission d'État. En tout cas en France, on peut le concevoir comme ça.
Est-ce qu'il y a une bonne politique culturelle et une mauvaise politique culturelle ? Et auquel cas, Jérôme Clément, quelle définition donneriez-vous d'une bonne politique culturelle ?
Pas une bonne politique culturelle. Enfin, je sais pas si j'oserais utiliser bonne ou mauvaise, parce que c'est porter des jugements qui sont pas toujours faciles à porter. Mais il me semble que l'émission qui avait été fixée par André Malraux en 1959 au ministère de la Culture sont toujours d'actualité. Rendre accessible au plus grand nombre les grandes œuvres de l'humanité. C'est vrai, il faut rendre accessible au plus grand nombre les grandes œuvres. Alors, qu'est-ce que c'est que les grandes œuvres? Ça, on peut discuter là-dessus. Mais une action collective, une action publique, qui fait qu'on essaye de donner à chacun la possibilité de s'enrichir intellectuellement, artistiquement, d'apprendre à jouer du piano, d'un instrument quel qu'il soit, de faire de la peinture, de lire des livres, etc. C'est une nécessité absolue. C'est comme l'éducation, quoi. C'est comme aussi l'écologie. On a besoin de ça pour vivre, pour respirer. Et cette respiration de l'âme.
Non, mais que l'État assure une éducation culturelle, des formations,
oui.
Ça je veux bien l'entendre, Jérôme Clément, mais est-ce que l'État doit aussi subventionner des œuvres littéraires ou artistiques, des festivals, des événements
Il faut bien que les artistes vivent. Si on leur donne pas d'argent pour vivre, je vois pas comment ils font. Ils sont obligés d'avoir un deuxième métier et d'être serveur dans un bar pendant que le soir, ils font de la peinture. Moi, je pense que c'est bien, c'est tout le problème des intermittents. Les intermittents, c'est de savoir au fond quel prix la collectivité est prête à payer pour que les intermittents du spectacle. Alors, évidemment, il y a des débats pour savoir qui c'est, jusqu'où ça s'étend, combien on les rémunère, etc. Mais au fond, c'est le prix qu'on est prêt à payer pour que les artistes puissent vivre. Parce que créer, c'est quand même un métier difficile. On n'est jamais sûr d'y arriver, ça ne plaît pas, on se trompe, il y a des trucs bien, des trucs pas bien, etc. Chacun a son avis. Mais en tout cas, il faut que... C'est une fonction, quoi, dans la société. Cette fonction-là, elle doit pouvoir être assumée sans que les gens soient trop malheureux. Donc, qu'on les aide à surmonter leurs difficultés matérielles et financières, oui, ça me paraît nécessaire. Ça me paraît nécessaire. Moi, je pense que c'est important de le faire.
Est-ce qu'on peut imaginer une politique culturelle qui se placerait au-dessus de toutes les batailles idéologiques, partisanes ?
Oui, enfin, je pense qu'on peut, dans un État démocratique, je pense qu'on peut imaginer que on a des garanties suffisantes pour que la culture soit pas un instrument de propagande. Et c'est important que les artistes y trouvent leur place. J'étais en Ouzbékistan il y a quelques semaines. Je voyais à quel point les artistes étaient malheureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de galerie, par exemple. Les peintres ne peuvent pas exposer leur travail dans leur pays, parce qu'il n'y a pas de circuit pour ça. Il n'y a rien pour ça. Donc c'est pas tellement une affaire de partisans. Il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert, quoi, avoir la curiosité, quoi, apprendre à découvrir ce que fait l'autre, lui donner les moyens de créer d'abord, et ensuite donner aux autres, aux spectateurs, aux citoyens, la possibilité d'être en contact avec les œuvres. C'est très important. Donc je crois que on peut considérer que c'est une mission essentielle. Enfin, moi, je le pense. Il y a des pays, on voit au Brésil, là, ils viennent de supprimer le ministère de la Culture. C'est désastreux. C'était un grand progrès pour ce pays d'avoir quelqu'un au gouvernement qui fait entendre cette voix-là parmi à la table du Conseil des ministres et qui a des moyens financiers pour pouvoir le faire exister. Moi, j'ai bien connu Gilberto Gil, chanteur très connu, qui était ministre de la Culture au Brésil. Ah bah, c'était important qu'il soit là, qu'une personnalité comme ça soit à la table et fasse entendre sa voix sur les sujets les plus variés. Et que par son intermédiaire aussi d'autres artistes, musiciens, gens de théâtre, acteurs, etc., cinéastes existent. Regardez à quel point au Festival de Cannes, la remise d'un prix est importante pour un pays. La reconnaissance, par exemple, du travail des réalisateurs roumains ou iraniens, le prix... donné au réalisateur iranien. Mais c'est formidable, quoi, l'écho que ça a pour faire comprendre que les Iraniens sont pas seulement des ayatollahs, des religieux, et qu'ils sont pas préoccupés, qu'il y a une diversité d'opinions, une diversité de création. C'est très important. Et malgré un régime qui n'est pas facile, je pense à celui des Iraniens, eh bien, il laisse faire. Donc, on voit par quelques exemples, j'en ai pour en avoir beaucoup d'autres, que, sauf les dictatures, évidemment. On sait que sous Hitler, on brûlait les livres. Les autodafés sont importants. En Union soviétique, il y avait une censure terrible, etc. Mais à part ces cas extrêmes, malheureusement fréquents, il y a l'acceptation qu'il y a une zone de liberté qui est au fond utile à tous, quoi. Voilà, c'est ça qui est important.
La culture, une affaire cruciale avec Jérôme Clément, toute cette semaine dans Un autre jour est possible. Merci Jérôme Clément, on se retrouve demain à la même heure.
Merci, bon, au revoir.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Teresa Crémisi, si je vous posais la question, de quelle culture êtes-vous ?
Eh ben, je ne saurais pas vous répondre, mais... Ou alors, oui, je saurais vous répondre, je vous dirais européenne. Étant donné que ni l'italien, ni le français en premier lieu, mais le suisse, l'allemand, l'espagnol sont des nations et des pays qui me sont chers et dont je connais la culture. Donc je dirais européenne. Je sais que ce n'est pas très chic de le dire en ce moment, mais c'est comme ça.
Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi vous dites que ce n'est pas très chic de le dire en ce moment ?
Parce que le mot, l'adjectif européen charrie une idée de bureaucratie et d'ennui qui n'est pas du tout la manière dont je vois ce continent. Je pense vraiment que c'est ce continent est celui dans lequel se reconnaissaient les Lumières et je me reconnais aussi.
Alors comment définir la culture européenne ?
Une culture de la liberté, de l'individualité, un lieu, au fond assez petit quand on regarde le reste de la planète, un lieu assez petit où depuis des siècles se sont exprimées des voix très différentes qui concernent la littérature bien sûr, la pensée, mais aussi la musique, les arts graphiques, peinture et sculpture. Et tout cela par vagues successives, avec des lieux qui ont émergé plus que d'autres en certaines périodes, toute la période flamande, puis avant la période italienne, la française, etc. Au fur et à mesure, c'est comme si un réflecteur illuminait des parties différentes de ce continent et leur donnait une espèce de primauté. C'est le même théâtre avec des réflecteurs qui s'appuient sur des coins variés.
Et aujourd'hui, s'il fallait parler de la culture européenne d'aujourd'hui, Teresa Crémisi ?
Alors j'aurais plus de mal, parce que, pour deux raisons. D'abord parce que la situation est confuse, mais j'aurais plus de mal parce qu'il est toujours très difficile de parler de l'époque dans laquelle on vit. On ne s'aperçoit de ce qui se passe et on ne comprend les lignes directrices que quand on regarde derrière soi.
Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, une politique culturelle ?
Une politique qui permet à des esprits et à des talents de s'exprimer sans trop de contraintes. Ça ne veut pas dire une politique assistée. Hein. Ça veut dire, je pense qu'il faut assister en retrait et laisser s'exprimer les talents, mais ne pas les suffoquer non plus. Je ne vais pas vous faire le numéro de ceux qui vous disent que sous les dictatures, de très grands talents sont nés et s'expriment, et vous faire des exemples qui vous viennent à l'esprit. Mais les talents s'expriment partout. Il faut les laisser s'exprimer.
Mais vous qui connaissez très bien l'Europe, vous pouvez même faire peut-être la comparaison entre différentes politiques culturelles.
Je suis française de cœur en ce qui concerne la politique culturelle française. Elle a été, depuis les années Malraux, puis ensuite les années Jack Lang, elle a été précieuse. Je cite simplement la loi Lang qui a permis de sauver les libraires, l'avance sur recette dont je m'occupe maintenant, qui a permis de faire vivre et prospérer l'industrie cinématographique. Ce ne sont pas des contrôles sur la culture, ce sont juste des socles qui permettent l'expression.
La culture pour tous, est-ce que ça reste la culture? Vous qui avez dû jouer avec ça, c'est-à-dire la culture de l'esprit, la culture commerciale, aujourd'hui, si on vous posait cette question?
Je suis mal à l'aise avec culture pour tous, parce que la culture, c'est la culture. Qu'elle soit pour une toute petite élite, parce que difficile d'accès, ou qu'elle soit populaire, je ne fais pas de différence. Donc je ne préfère pas la culture populaire à la culture destinée à une petite élite. Je ne fais pas de différence. Je ne la préfère pas, mais je ne la. Je souhaite que les deux s'expriment de la même manière.
Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes de culture ou les intellectuels tiennent un discours progressiste ou au contraire, vous décelez dans leurs avis, dans leurs analyses, quelque chose qui pourrait vous inquiéter?
À vrai dire, je n'aime pas trop quand les politiques parlent de culture.
Et le contraire, quand les hommes de culture parlent de politique?
À vrai dire, je ne comprends pas très bien ce qu'ils disent des fois. Des fois, ça sonne creux. Des fois, ça sonne bienveillant. Des fois, ça sonne tout commerce et tout business. Donc, je ne les comprends pas tout à fait. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils ne parlent pas politique. Vaut mieux des actions et pas de paroles.
Est-ce qu'on peut justement dissocier la politique, la vie de tous les jours, la vie sociale avec la création, avec les idées, avec la culture?
Ah, c'est deux choses différentes. La vie sociale, elle est imbriqué dans la culture. On fait des choix parce que la culture que nous avons accumulée nous pousse vers certains choix. On va avoir des expositions parce que le milieu culturel dit qu'il faut aller voir des expositions. Et c'est très bien ainsi. Là où mon malaise s'exprimait, c'était quand il y a un discours sur la culture par les politiciens. De quelque pays qu'il soit, j'ai rarement, sauf quand... On cite toujours Malraux, mais enfin, c'est une exception. J'ai rarement entendu dire des choses qui m'aient frappé dans la bouche des politiques.
Vous parlez que de la France ou de l'Europe d'une manière générale?
Non, de l'Europe en général. De l'Europe en général, alors je connais bien les Italiens, un peu les Espagnols. Non, je pense que les politiques doivent faire leur politique, protéger leur population, essayer de rayonner le plus possible et de se donner les moyens pour la culture. Mais c'est les discours, pardon, je me suis embarquée dans quelque chose, c'est vraiment les discours qui sont un peu gênants.
Par exemple, donnez-nous un exemple.
Les grandes déclarations d'intention, pour tous, pour le peuple, etc. Là, j'entends très souvent dans les villes italiennes des maires, des conseillers de culture qui poussent et font de grands discours vraiment grandiloquents sur l'accès à tout le monde. Ils le font de manière souvent démagogue. Un enfant du peuple, une enfant du peuple peut avoir envie d'aller vers une culture populaire, mais aussi vers une culture difficile. Il faut laisser les gens s'approcher même des choses difficiles.
Pour revenir un peu à votre longue carrière d'éditrice, être une éditrice, c'est aussi plonger dans la culture des autres, dans toutes les cultures du monde. Comment vous vous positionnez quand vous découvrez un texte qui vient de loin? Est-ce que c'est Teresa Crémisi qui est pétrie d'une culture européenne, qui jette un œil sur les autres cultures du monde? Ou est-ce que vous considérez que la culture universelle existe?
Ah, c'est une question extrêmement... C'est très difficile de répondre à ça. Enfin, si vous me demandez comment je réagis quand quelque chose d'inconnu mais donné à lire et qui arrive d'ailleurs, ma réaction est purement professionnelle. C'est-à-dire mon être personnel et mes goûts s'effacent devant ma réaction professionnelle. Est-ce que c'est le moment de publier ça? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il trouvera le bon accueil? Donc j'ai une réaction professionnelle quand je découvre quelque chose.
Et quand vous enlevez justement votre casquette d'éditrice, de responsable, pour redevenir juste une personne, Teresa Crémisi, quand vous découvrez, je sais pas, une œuvre d'art, un roman, un livre, un essai venu d'autres contrées que l'Europe, comment vous vous positionnez? Comment vous recevez ces émotions, ces informations?
Ben, je suis curieuse, donc j'essaye de capter quelque chose qui me correspond. Mais sans curiosité, il n'y aurait pas d'éditeur, comme il n'y aurait pas de producteur de cinéma, comme il n'y aurait pas de galériste pour les œuvres d'art. Donc nous sommes des êtres faits pour être des professions intermédiaires.
Est-ce qu'on peut vivre sans culture, après tout?
Je ne crois pas. Je crois que même le paysan toscan de la Renaissance ait capté le fait qu'il se passait quelque chose de très important pour la région dans laquelle il vivait. Je pense que la culture donne de la fierté.
Et enfin, pour terminer, quel lien faites-vous, Teresa Crémisi, entre culture et identité, et puis ensuite entre culture et civilisation?
Je tâtonne là, c'est une colle. Culture, identité. La culture et l'identité se nourrit de beaucoup de choses, dont la culture. Elle se nourrit de paysages, de gastronomie, de manières de vivre. Donc c'est une des facettes de l'identité, la culture. En ce qui concerne la civilisation, c'est plus un regard vers ce qui a été. Beaucoup de cultures cohérentes entre elles forment une civilisation. Mais on ne peut parler de civilisation que quand on regarde derrière soi.
Et enfin, pour vraiment terminer, vous qui vous méfiez du discours politique quand il se mêle de la culture, quelle position doivent avoir les politiques en Europe vis-à-vis de la culture?
Ils doivent être pragmatiques. Ils doivent penser que les artistes, les penseurs, les musiciens, les peintres, etc., sont le sel de la terre. Qu'ils sont le sel de la nation qu'ils dirigent et qu'ils sont aussi, ils ont aussi un effet bénéfique sur le bien-être matériel et immatériel de la nation qu'ils dirigent.
Merci Teresa Crémisi.
Merci à vous.
C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr, émission réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Jean-Louis Deloncle, émission préparée comme tous les matins avec Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet. Bonne matinée sur France Culture, à demain. Thank you.